ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis, Daniel Zavagnaud au micro, je vous souhaite la bienvenue sur le site de l'église protestante de Blégny. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu profiter de ces quelques jours de beau temps. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous sommes encore une fois réunis virtuellement afin d'écouter ta parole. Notre Dieu, rends-nous attentifs à ton enseignement. Bénis ton église confinée depuis un an. Veille sur chacun d'entre nous. Ne permets pas au découragement de nous atteindre. Rends-nous forts. Que cette parole nous relève et nous fortifie. À toi soit toute la gloire. Amen. Je désire aujourd'hui vous faire découvrir quelques chansons qui m'ont touché. Le premier extrait que je veux vous faire écouter a pour titre « Plus esclave », interprété par Grégory Turpin. La parole de Dieu nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mes fils ». Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Cela se trouve dans Galates chapitre 4, verset 7. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car le Seigneur Jésus nous en a délivrés. Nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu et donc héritiers des promesses divines. Et pour appuyer cette affirmation, je vous lis un texte dans la première épître de Jean au chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Par amour, Christ nous a rachetés, et maintenant nous sommes plus des étrangers, mais nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Une filiation obtenue par la mort de Jésus. L'apôtre Paul nous demande de nous garder purs, afin de ne pas souiller l'Église de Dieu. Écoutez cette magnifique chanson de Grégory Turpin.
Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Je suis enfant. suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Parfois, nous pouvons sombrer dans le désespoir, mais en tant que chrétiens et enfants de Dieu, nous devons nous accrocher aux promesses que Dieu nous laisse dans sa parole. Je désire vous laisser quelques versets afin de vous encourager si vous êtes dans le désarroi. Il nous est dit ceci dans la parole de Dieu. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous trouvons cela dans le prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10. 1 Pierre 5, 10 nous dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, et vous rendra inébranlable. » Le psaume 126, au verset 5, il nous dit ceci. « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de grains. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. » Jérémie dira au chapitre 29, verset 11, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Je vous propose maintenant d'écouter La Chapelle Musique et Philippe-Joseph Bédard nous chanter « Tu me donnes la vie ».
quand mon cœur assombri semble s'éteindre en silence, loin de mes peurs, tu me conduis, tu me remplis d'espérance. Tu es vivant à jamais, ton amour est sans fin.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 6 à 14, il nous est dit ceci. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Du Père. Jésus est la lumière, et beaucoup ne veulent pas la recevoir. Mais nous qui l'avons reçue, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est mon désir, afin que tous ceux qui écoutent ce message deviennent son enfant. Je vous propose une chanson de Matt Marvan, Christ est la lumière.
Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est.
sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire.
Maintenant, nous écouterons Paul Talon nous apporter le message « Que Dieu bénisse notre ami ».
Chers frères et sœurs de Blégny, je suis heureux de pouvoir vous retrouver par ce moyen, malgré le confinement et toutes les autres mesures anti-Covid. J'ai eu à cœur de vous partager quelques pensées sur l'appel d'Élisée. Ouvrons donc la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 15. 1 Roi 19, 15. L'Éternel dit à Élie, « Va, reprends ton chemin. Tu viendras Azaël pour roi de Syrie, tu viendras Jéhu pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint pour prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc voici quelques versets sur l'appel d'Élisée pour vous proposer de réfléchir quelques instants sur l'importance de l'appel de Dieu. Et est-ce que Dieu appelle encore? Avez-vous déjà été saisi par l'appel de Dieu? Et comment est-ce que Dieu appelle? Qui appelle-t-il? Peut-il encore nous appeler si nous avons déjà été appelés? Tant de questions importantes, car dans la Bible, Dieu appelle du début à la fin. Dans la Genèse, Dieu appelle Adam. Genèse 3:9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Souvenez-vous comment Dieu a appelé Samuel alors qu'il était encore enfant, par 4 fois, et comment Samuel lui a répondu. Dans 1 Samuel 3:10, l'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle !» Éternel, car ton serviteur écoute. les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont souvent commencé à vivre avec Dieu suite à un appel. Pensez à Abraham quand Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai » au chapitre 12 de Genèse. Et au chapitre 22, il lui dit encore « Va-t'en au pays de Morija, sacrifier ton fils unique. » Et Dieu l'empêchera de le faire in extremis. Et il appellera « Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à ton fils. » Pensons à Moïse devant le buisson ardent, Jérémie et d'autres. Souvenons-nous comment Christ a appelé les 12 apôtres en citant leur nom. Ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Paul sur le chemin de Damas, quel changement de direction dans sa vie. Parfois, Dieu aussi appelle toute une église. Nous voyons dans Apocalypse 2 et 3. Nous avons l'exemple des 7 églises à qui Dieu envoie un message personnalisé et percutant du genre « Repens-toi, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Remarquez qu'il y a une différence quand Dieu parle et quand Dieu appelle. J'entends souvent dire que Dieu parle de différentes façons et on en fait souvent l'expérience dans notre vie chrétienne. Mais quand Dieu appelle, c'est plus fort, c'est plus interpellant. Puis c'est impossible de passer à côté. C'est un peu comme nous sommes avec nos enfants, on leur parle tout le temps. Mais quand on les appelle, on s'attend à ce qu'ils nous écoutent. Alors, mentionnons quelques constatations importantes dans la parole de Dieu. Premièrement, l'appel de Dieu est universel. Et il y a un appel de Dieu qui concerne tous les hommes, partout au monde, sans exception. C'est l'appel à la conversion. Et on voit que depuis la chute d'Adam, Dieu a voulu récupérer l'être humain, le sauver, le réconcilier par différents moyens. Et c'est vraiment l'appel qu'il adresse à tout être humain. Déjà dans l'Ancien Testament, nous le constatons, Ézéchiel 18, 23 et 32 nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» dit le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?»« Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. « Convertissez-vous et vivez. » L'homme est incapable par lui-même de s'élever au standard de Dieu. Donc Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, finalement, afin de racheter par ses mérites sur la croix quiconque croit en lui. Cet appel de Dieu est une offre. Elle nous concerne tous. Et il faut y répondre aujourd'hui si cela n'a pas été fait. 2. La variété des appels de Dieu. Nous voyons qu'il y a différents appels dans la parole de Dieu. Ici, Élisée, l'appel qu'il reçoit est un peu bizarre au début, parce qu'il a eu une formation de 9 ans avant qu'il puisse remplacer Élie. Et il est dit dans 2 Rois 3:11 que Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors, souvent, nous pensons que l'appel de Dieu, c'est pour devenir pasteur ou missionnaire. Mais Dieu peut appeler pour des tâches diverses, le diaconat, la libéralité, par exemple. Dieu appelle aussi à la sanctification, à mettre de l'ordre dans nos vies. Il appelle à une vie chrétienne engagée. Il y a des appels ponctuels. Par exemple, participer à un projet, prendre une décision importante dans la vie. Il n'appelle peut-être pas tout le monde à devenir évangéliste comme on en connaît, mais il nous presse à témoigner de lui autour de nous de différentes façons. Paul montre l'importance de l'appel de Dieu dans 1 Corinthiens 7, le verset 17, que chacun marche selon la part que l'Éternel lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. 3. La particularité de l'appel de Dieu. Et il n'y a pas de stéréotypie dans la façon que Dieu appelle. Élisée a été appelé par l'intermédiaire d'Élie. Souvent les chrétiens ressentent l'appel de Dieu par le contact d'un ou plusieurs autres chrétiens qui, par leur exemple ou leur parole, ont laissé une impression qui marque à vie. C'est ainsi que Paul a vraiment sensibilisé Timothée, son fils spirituel. Et Timothée lui-même est devenu évêque d'Éphèse, a permis que Éphèse devienne une ville chrétienne. Nous avons beaucoup d'exemples. Les plus anciens se rappellent du serviteur de Dieu qui était Ralph Chalice. Ralph Chalice a converti Alain Choiquier, qui a été un grand évangéliste. Alain Choiquier a converti Jean-Louis Gaillard, qui encore aujourd'hui évangélise avec un grand impact. Et c'est important, l'impact des appels de Dieu. Dieu enverra Pierre à la maison de Corneille pour que tous ceux qui sont réunis se convertissent. Il enverra Philippe au désert pour qu'il rencontre l'Éthiopien qui lisait sans comprendre le manuscrit d'Ésaïe. Certains trouvent l'appel de Dieu en méditant seul la parole de Dieu. Un verset qui parle et qui touche représente un appel de Dieu. Dieu convertit Saul de Tarse seul sur le chemin de Damas. Et on voit qu'à l'assemblée d'Antioche dans Actes 13, l'Esprit appelle seul en disant « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit peut donc donner une conviction forte, tellement forte, qu'il est plus facile de s'y soumettre que d'y résister. Jérémie a fait cette expérience. Dans Jérémie 20, au verset 7, il a dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. » Et au verset 9, il dit « Si je dis, je ne parlerai plus en ton nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne peux pas le contenir. » Et dans tous ces cas, il s'agit d'un appel précis de Dieu. Pour Élisée, c'était un appel au service. Et quand il comprend que cela vient de Dieu et quitte ses bœufs, il quitte sa charrue, il dit adieu à sa famille et il suit Élie. Et Élisée ne s'est pas attribué cette tâche de son propre chef. Nous pouvons bien sûr entreprendre beaucoup d'excellentes œuvres pour Dieu par décision personnelle. Mais quand c'est un appel de Dieu, c'est plus fort. C'est plus fort que le besoin seul. Jésus lui-même est resté les 30 premières années de sa vie sans bouger pour dire. Pourtant, les besoins étaient là, mais il a attendu l'heure de Dieu. La capacité seule n'est pas un appel. Même si toutes les qualités spirituelles, mentales, physiques ou intellectuelles sont présentes. L'invitation seule n'est pas nécessaire pour l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de prétendus Élie, des gourous, peuvent nous manipuler dans ce sens. Il nous faut s'assurer qu'il s'agit de la voix du Maître. Le désir est une bonne chose, mais ne remplace pas l'ordre de marche du Seigneur. Alors l'appel de Dieu pour le service est donc une conviction profonde, forte, venant du Saint-Esprit, qui est confirmée par une paix intérieure et la parole de Dieu, que Dieu nous veut dans un certain travail, à un certain endroit. On sait que ça vient de Dieu. 4. Les difficultés de l'appel de Dieu. Élisée était appelé à un travail très difficile. Le Seigneur nous appelle rarement à quelque chose de tout à fait facile. Pour Élisée, il est dit dans 1 Rois 19:17, « Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu, le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. C'était un ministère de mort. Déjà, Azaël et Jéhu étaient des hommes terribles, et Élisée devait être encore plus terrible. Alors son apprentissage durant 9 ans n'était pas non plus facile. Il devait être constamment avec son père Élie, verser l'eau sur ses mains. Ce n'était pas une fonction agréable. Élie mettait l'idolâtrie à mort, il dénonçait le péché sous toutes ses formes, il ne pactisait pas avec le mal ambiant. Il faisait mourir la chair avec ses passions et il défendait la vérité. Pour nous, la tâche non plus n'est pas facile. Nous avons un message de vie, mais pour ceux qui refusent, c'est un message de mort. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 2, au verset 15 et 16. Nous sommes pour ceux qui périssent une odeur de mort, donnant la mort. Et il ajoute, nous ne falsifions pas l'évangile. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on falsifie l'évangile. On ne prêche plus certains sujets. On ne prêche plus sur le péché, ni le jugement, ni l'enfer. On ne parle plus sur la mort à soi-même, la mort au passé, la mort à un style de vie que Dieu condamne. Que ce soit dans beaucoup d'églises, même évangélique, la tendance est à une certaine modernité et au libéralisme religieux. Déjà, Dieu n'est pas omniprésent, il n'est pas tout-puissant. Bientôt, on ne parlera plus de Dieu, comme dans la Bible. Déjà, on ne parle que du positivisme. Mais dans la Bible, il y a autant de versets qui parlent de l'amour de Dieu que de la colère de Dieu. Et ça doit nous faire réfléchir. L'évangéliste Fernand le Grand signalait que dans les Actes, les messages des apôtres qui nous sont mentionnés ne parlent pas de l'amour de Dieu, mais du jugement à venir. Ils prêchent la repentance, le pardon des péchés, la foi en Jésus-Christ, la résurrection. Ils n'avaient pas besoin de parler de l'amour au monde parce qu'ils en étaient un exemple. Ils étaient animés, remplis de l'amour de Dieu. Et les gens disaient, voyez, voyez comme ils s'aiment. Et le jour de la Pentecôte, Pierre fait un discours qui a fait 3000 disciples. Comment ? En responsabilisant les gens. Actes 2, 23 et 38 nous dit, vous avez crucifié Jésus, vous l'avez fait mourir par la main des impies, repentez-vous. Alors, quand Paul annonce l'évangile à Félix et à Drusille, il les fait trembler, parce qu'il parle de justice et de jugement à venir. Et des menteurs comme Ananias et Saphira ne résistaient pas à l'assemblée des saints. Cinquièmement, la réponse à l'appel de Dieu. Élisée répond en prenant 3 décisions. Il ne quittera plus Élie, il va dire un adieu définitif à sa famille et il coupe tous les ponts. Il casse sa charrette et sacrifie 2 bœufs. Et durant 9 ans, il sera en formation. Un service effacé, en présence du prophète, où il servira entre autres à laver ses mains. Puis arrive le moment où Élie va être enlevé, et Élisée va rester seul pour continuer l'œuvre d'Élie. L'histoire est magnifique. Elle se trouve dans 2 Rois, au chapitre 2, le verset 2 à 8, où nous lisons « Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. » Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Élisée répondit, « Je ne te quitterai point. » Verset 5. Les fils des prophètes à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Je ne te quitterai point. » Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux au sec. Et je trouve cette détermination d'Élisée vraiment magnifique. Il ne reçoit aucune parole d'encouragement ni de soulagement, même pas d'Élie et pas non plus des étudiants prophètes. Tout est fait pour le détourner, mais rien ne le rebute. Aussi, il obtiendra les garanties qu'il réclame, parce que quand Dieu appelle, il donne des garanties. 6. Les garanties de l'appel de Dieu. Nous les trouvons un peu plus loin, dans 2 Rois 2, le verset 9 à 14. Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Verset 10. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait en criant et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau d'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Élisée réclame une double portion de l'esprit d'Élie. Il faut entendre par là que Élie avait une fameuse portion de l'esprit de Dieu. Et Élisée demande la double portion de l'esprit d'Élie. C'est vraiment audacieux, c'est une sainte audace et qui nous étonne. Élisée est vraiment de ceux qui illustrent ce verset un peu mystérieux. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent » Matthieu 11, 12. Il est comme Jacob qui lutte avec Dieu et qui dit à Dieu « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni » Genèse 32, 26. Et Dieu dira de Jacob « Tu as lutté avec Dieu et tu as été le plus fort ». Oui, Élisée est comme Aksa, la fille de Caleb, quand elle dit à son père, « Tu m'as donné des terres du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna une double mesure, les sources d'en bas et les sources d'en haut. Dans 2 Rois 13, le verset 18 et 19, il y a l'histoire d'Élisée avec le roi d'Israël. Élisée dit, « Prends des flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois, et puis s'arrêta. Alors l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Il y en a, et il y a de ceux qui frappe non point trois fois, mais jusqu'à sept fois, parce qu'ils veulent l'action de Dieu, sept fois sur sept. Alors la tâche est grande, la moisson est vaste, les ouvriers sont peu nombreux et le temps est court. Et une mesure normale, une simple mesure ne peut suffire. Élisée sent sa petitesse et veut des garanties. D'autres ont voulu des garanties. Moïse, quand il dit « Qui suis-je ? Qui suis-je ?» Ou Jérémie, quand il dit « Je ne suis qu'un enfant ». Marie, la mère de Jésus, quand elle parle de la bassesse de ta servante. Et Paul, quand il parle d'être une bonne odeur de Christ, qui est suffisant pour cela? Qui est suffisant? Mais quand Dieu appelle, il donne des capacités, il donne des armes, comme les armes qui sont décrites dans Éphésiens 6, les armes offensives et défensives. Il accorde des dons de grâce, selon 1 Corinthiens 12. Il accorde plus qu'une double portion de son esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 7. L'accomplissement de l'appel de Dieu. Alors voici maintenant Élisée seul, mais la double mesure lui est accordée, et cela est magnifique. C'est magnifiquement décrit dans la suite. Parce que Élie a fait 7 miracles retentissants. Et Élisée pouvait donc s'attendre à en faire le double, 14. Les miracles en effet se succèdent malgré les efforts de Satan pour décourager et le mettre à mort. Mais pour un temps, l'impiété est tenue en échec et beaucoup de découragés reprennent courage de voir l'action spectaculaire de Dieu. Et avec la résurrection du fils de la Tsunamite dans 2 Rois 4, Élisée a atteint le 7e miracle, comme Élie. Est-ce que Dieu va s'arrêter là? Non, il y aura encore 6 miracles, 13 en tout. Il en manque un pour faire exactement le double. Il arrive aussi que des graves questions se posent à nous, le résultat se fait attendre. Où on ne voit pas le résultat. L'œuvre n'atteint pas la dimension qu'on espère. Les circonstances sont difficiles et nous font parfois même douter du Seigneur, de son appel, ou même de notre salut. Est-ce que le tout est accompli serait devenu le tout est presque accompli? C'est alors que Élisée tombe malade et meurt, en laissant un miracle en suspens. Et nous lisons ces quelques versets surprenants dans 2 Rois 13, le verset 14, et le verset 20 et 21, où il est dit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. » Alors, quand la situation est au plus bas, quand tout parle de défaite, c'est alors que vient le Seigneur, et qu'il y a l'amen de sa promesse d'autrefois. Ce 14e miracle est l'accomplissement total de ce que Dieu avait dit. Cette promesse de Philippiens est aussi pour nous la bonne nouvelle qu'il a commencé en vous et l'achèvera au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Ce jour-là, nous aurons 14 sur 14. Ce jour, il nous révélera ses œuvres cachées, car nous n'avons pas eu les résultats voulus. Nous n'avons pas vu tous les résultats. Nous n'avons pas vu les résultats qu'il y a eu. Mais Dieu nous révélera sa façon de voir son travail à travers nous. C'est cela que l'Apocalypse nous révèle quand il est dit au sujet des élus que leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Parce qu'il y a une suite. Plus d'une promesse s'est accomplie à titre posthume. Plus d'un fils prodigue s'est converti après la mort d'un père ou d'une mère qui ont tant prié pour lui sans jamais voir la réponse à leur prière. C'est notre espérance chrétienne, celle du dernier chapitre de la Bible, quand il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Oui, je viens bientôt. » Apocalypse 22, 13 à 20. Alors je termine. Pour conclure, Jésus a vu la foule comme étant languissante et abattue, comme des brebis sans berger, et il fut ému de compassion. Alors il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9, 36 à 38. Alors voilà, cela demande une réponse de notre part. Allons-nous discuter avec Dieu comme Moïse et lui dire, « Seigneur, envoie qui tu voudras, sous-entendu, qui tu voudras, mais pas moi. » Et peut-être Dieu n'appelle pas, ou peut-être que nous ne voulons pas trop qu'il nous appelle. Il nous reste encore une possibilité, c'est de prier pour que le Seigneur appelle, ou permettre qu'il envoie quelqu'un d'autre. Mais nous aurions tort de refuser son appel, car il veut aussi nous qualifier et réaliser de grandes choses, comme pour Élie et Élisée, car il n'a pas changé. Si vous voulez être encouragé par l'appel de Dieu, un exemple pourrait vous motiver, celui d'Oswald Smith. Oswald Smith est un célèbre prédicateur qui s'est converti en 1906 lors de la croisade de Torrey à Toronto. Il sent l'appel de Dieu d'une façon précise pour les missions. Et après ses études théologiques, il s'apprête à partir en mission. Mais les sociétés missionnaires le refusent parce qu'il a un problème, une santé fragile. Et depuis son enfance, il souffre d'insuffisance pulmonaire. Et il adopte alors un mot d'ordre qui deviendra le mot d'ordre de sa vie. « Si je ne peux pas aller moi-même, j'enverrai quelqu'un d'autre. » Il se consacre à son église à Toronto, la People Church, qui existe encore, et cette église enverra et soutiendra 500 missionnaires à temps plein à travers le monde. Quel merveilleux exemple! Que le Seigneur nous aide à vraiment répondre à son appel, à l'entendre, à discerner sa voix et à croire en les garanties que le Seigneur nous donne pour obéir à sa voix. Prions. Seigneur, pardon pour toutes les fois que nous avons négligé ou refusé ton appel. Seigneur, nous voulons avoir une bonne attitude. Nous voulons nous rendre attentifs à ta voix. Que ton esprit parcourt l'Église et cherche des bonnes volontés. Nous voulons qu'il nous trouve. Parle, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs. Écoute, à toi la gloire. En ton nom, nous t'avons prié. Amen.
Je veux remercier Paul Tallot pour son message. Chers amis, voici une annonce qui concerne uniquement les membres de la communauté protestante de Blegny. Le consistoire s'est réuni le 24 février et nous avons examiné plusieurs points, dont le point de l'Assemblée générale. Vous savez que l'année dernière, nous n'avons pas pu organiser cette Assemblée générale pour cause de Covid. Cette année-ci, nous allons procéder différemment. Vous allez recevoir, vous, les membres votants, un courrier avec des bulletins de vote pour ainsi renouveler le consistoire de la communauté. Ces bulletins de vote vous parviendront par la poste et je vous conseille donc de exécuter ce vote le plus rapidement possible afin que nous puissions ainsi remettre les choses en ordre. Les votes nous seront renvoyés par courrier, évidemment. Il y a une enveloppe qui sera introduite dans le courrier que nous vous enverrons. Et il y a aussi le vote pour décharger le trésorier pour les comptes 2019 et 2020. Et à approuver, bien entendu, le budget pour 2021. Je vous demande de répondre rapidement à cette invitation de voter afin que nous puissions régulariser cette situation. Je vous remercie pour votre bonne volonté. Je vous remercie parce que c'est aussi un acte d'amour vis-à-vis de l'Église. Vous allez, dans les prochains jours, recevoir ce courrier. Merci d'y répondre le plus rapidement possible. Notre culte dominical s'achève. Je veux vous souhaiter une bonne semaine. Soyez bénis par notre Dieu. Nous terminerons en musique. Je vous propose d'écouter Sébastien Korn avec la chanson « Je cours vers le Père ». Au revoir et à bientôt.
J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens panser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore. Ma rédemption payée sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends.